France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Nous serons à Rome dès le début de ce journal, là où les cardinaux ont annoncé ce matin les modalités des funérailles du pape François. On se rendra par ailleurs en République démocratique du Congo pour y constater l'émotion qu'a suscité hier la perte d'une figure morale engagée et notamment pour la paix. Dans le reste de l'actualité, des dizaines d'universités américaines dénoncent ce matin l'interférence politique de l'administration Trump. Et puis nous serons à la Réunion avec notre envoyé spécial à l'occasion de la visite du président Emmanuel Macron, appelé à trouver la solution. Comment lutter contre l'épidémie de chikungunya qui sévit actuellement sur l'île? On posera également la question à notre invité aujourd'hui, le professeur Jocelyn Rhodes. Mitre blanche et chasuble rouge, le Saint-Siège a diffusé ce matin les premières images du pape François reposant dans son cercueil ouvert, encadré de deux gardes suisses dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican où il vivait. Sa dépouille devrait être transférée demain à la basilique Saint-Pierre afin d'y être exposée aux fidèles. Sans catafalque, cette estrade décorative élevée, généralement construite pour recevoir un cercueil, une demande du souverain pontife défunt qui souhaitait introduire plus de simplicité, de sobriété, comme le dernier clin d'œil d'un homme qui cherchait l'humilité. Quant aux funérailles, elles se dérouleront samedi matin sur la place Saint-Pierre au Vatican. Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Rome. Alors c'est à l'occasion d'un cérémonial bien précis, élaboré au cours des siècles, qu'ont été décidées ce matin les modalités des funérailles papales. En l'occurrence, Bruno, à l'issue de la première réunion à huis clos des cardinaux depuis le décès du souverain pontife.
Réunion qui s'appelle une congrégation générale. Elles vont se multiplier dans les deux semaines à venir au fil des arrivées à Rome des cardinaux qui viennent participer aux obsèques et aux conclaves. Pour l'instant, sur les 252 cardinaux vivants, 60 ont participé à la réunion de ce matin qui a duré 1h30. Tous ne viendront pas à Rome. Certains sont trop âgés pour se déplacer. Le plus âgé des cardinaux a 99 ans. Funérailles samedi donc, 10h sur le parvis de la place Saint-Pierre, comme Jean-Paul II il y a 20 ans, comme Benoît XVI en janvier 2023. Et vous le disiez, François a simplifié le rituel. Avant, le pape reposait dans trois cercueils de cyprès, de zinc et de chêne enchâssés les uns dans les autres. Après la cérémonie qui sera présidée par le doyen des cardinaux, Monseigneur Giovanni Battista Re, un Italien très âgé, lui aussi 91 ans, le corps fera un dernier passage par la basilique avant d'être transféré à Sainte-Marie-Majeure dans la ville de Rome, où François rejoindra sept autres papes inhumés dans cette église sous le signe de Marie au fil de l'histoire. Le temps du deuil continue. Ce soir, nouvelle prière. On égrènera le chapelet place Saint-Pierre à 19h30. Puis le temps du conclave approchera le 10 mai dernier délai. Si les textes officiels du Vatican sont respectés, il y a 135 cardinaux électeurs, c'est-à-dire âgés de moins de 80 ans. Et on vient d'avoir l'information. La prochaine congrégation générale, ce sera demain à 17h.
Merci Bruno Duvic en direct de Rome. Aujourd'hui, l'Alléluia résonne enfin dans l'église. L'amour a vaincu la haine et la lumière a vaincu les ténèbres. Ainsi s'exprimait le pape François lors de son dernier message Urbi et Orbi à la veille de sa mort. Sauf que les mots du défunt résistent mal au fracas du monde. Hier, à peine expirée la fragile trêve pascale que les propagandistes du Kremlin avaient présentée comme l'expression d'une miséricorde chrétienne, la Russie a repris ses bombardements intensifs sur l'Ukraine. De son côté, l'armée israélienne poursuit elle aussi ses frappes sur la bande de Gaza. La défense civile palestinienne a annoncé qu'au moins 7 personnes étaient mortes ce matin dans l'enclave. Enfin, au Liban, cette fois-ci, un chef militaire d'un groupe islamiste allié au Hamas a également été tué ce matin dans une frappe de l'État hébreu. Alors, parmi les plaidoyers les plus poignants du pape François, vibrant d'engagement indéfectible pour la paix et la dignité humaine, figure notamment le discours qu'il avait prononcé lors de sa dernière visite sur le continent africain. C'était en février 2023 à Kinshasa, bien avant donc que la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo ne vienne à nouveau semer la peur dans ce pays très majoritairement catholique. À l'époque, la venue du souverain pontife en avocat des souffrances avait même provoqué des scènes de liesse dans la capitale. 1 million de personnes étaient venues participer à une immense messe à ciel ouvert sur le tarmac de l'aéroport. Et c'est ainsi qu'hier, en mémoire de celui qui avait véritablement marqué le pays par son passage, ce qui devait être un jour de célébration, le lundi de Pâques a pris des allures de deuil national, comme en témoigne ce reportage sur place de notre correspondant William Mingao Nguyen.
Hier, pour le lundi de Pâques, toutes les églises de Kinshasa ont sonné leurs cloches en l'honneur du pape François. Comme de nombreux fidèles, Philomène a bravé la pluie pour assister à la messe spéciale donnée à la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire du souverain pontife. Elle se souvient encore de la visite du pape 3 ans plus tôt.
Moi-même, j'étais parti la veille pour assister à la messe que le pape devait dire. La phrase du pape « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo » restera à jamais gravée dans notre mémoire.
Assis sous un arbre, plusieurs autres fidèles discutent de la funeste nouvelle. L'un d'entre eux chancelle et encore sous le choc.
Ça fait mal, franchement, ça fait mal.
Grâce reprend la parole à son ami ému. Lui aussi se rappelle de la visite du pape en 2023.
Les gens étaient vraiment tellement joyeux, ils chantaient. C'était vraiment nécessaire, l'arrivée du pape dans notre pays. Parce que notre pays, nous traversons un moment de l'agression.
Pour le père Camille Essika, recteur de la cathédrale, le pape François était respecté par les Congolais en tant que chef de l'église, mais aussi pour avoir mis en lumière la guerre qui sévit dans leur pays. Avant cela, la dernière visite du chef de l'église remontait à Jean-Paul II en 1985.
On retient du pape comme celui qui a aimé notre pays. C'est celui qui a pris la place dans notre cœur. On l'a aimé en tant que personnalité religieuse, mais aussi en tant que la personne qui est la voix des sans-voix pour les souffrances de notre pays.
Toute la journée, les hommages se sont multipliés jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Sur le réseau social X, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a loué la mémoire d'un allié infatigable de la RDC.
Le reportage à Kinshasa, signé William Mingaon Guyen.
Difficile d'imaginer deux dirigeants plus différents l'un de l'autre.
Égocentrisme versus humilité, intérêt pour le pouvoir d'un côté et pour les exclus de l'autre. Et pourtant Donald Trump, qui pour le pape François lui-même n'était pas chrétien, a annoncé qu'il se rendrait aux obsèques du souverain pontife accompagné de son épouse. En attendant, le locataire de la Maison Blanche poursuit sa croisade contre les temples du savoir et du progressisme américain, une mise au pas des universités. C'est donc pour braver les dictats de l'administration Trump que la vénérable université Harvard, dont les subventions fédérales ont été gelées par le gouvernement, a décidé hier de porter plainte en justice. Une position saluée par de très nombreux professeurs et étudiants comme un rare signe de résistance aux pressions de l'administration républicaine, mais pas seulement, puisque ce matin, Nathanaël Charbonnier, ce sont des dizaines d'universités américaines qui dénoncent l'interférence politique de Donald Trump.
Alors le mot anglais pour traduire la pensée des dirigeants de l'université, c'est blackmail. Comprenez, chantage, avec un bras de fer qui se joue entre Donald Trump et le monde étudiant, qui est le résultat, entre autres, des manifestations qui se sont déroulées à propos du Proche-Orient. Pour la Maison-Blanche, il y a eu des manquements dans la lutte contre l'antisémitisme sur les campus. Les autorités fédérales américaines ont ainsi lancé des procédures contre plusieurs étudiants étrangers placés en détention pour avoir pris part à des manifestations pro-palestiniennes. Dans le cas d'Harvard, s'est ajouté un gel de plus de 2 milliards de dollars de subventions. Trump reproche à la célèbre université le maintien de certains programmes liés à la diversité, l'équité et à l'inclusion. La bataille qui se joue sous forme de chantage oppose les universités qui disent défendre la liberté d'expression, si importante pour les Américains, au nouveau pouvoir à Washington qui estime que ces subventions se méritent. C'est maintenant à la justice de trancher pour un bras de fer qui est loin d'être terminé.
Toujours aux États-Unis, les témoignages de nombreuses femmes qui ont publiquement accusé Donald Trump de harcèlement ou d'agression sexuelle devraient trouver un écho particulier aujourd'hui avec le nouveau procès d'Harvey Weinstein.
Oui, l'ex-producteur et magnat d'Hollywood, dont la chute en 2017 avait provoqué le début de la vague mondiale MeToo, a retrouvé le banc des accusés à New York, où il est rejugé après l'annulation, c'était l'an dernier, pour vice de procédure de sa condamnation à 23 ans de prison. Les précisions de Loïc Loury.
Bientôt 8 ans après les enquêtes du New Yorker et du New York Times qui avaient précipité sa chute, c'est avec un œil neuf, espère Harvey Weinstein, que son dossier sera examiné, son avocat promettant un procès sur les faits et non pas sur le mouvement MeToo. À New York, des visages connus témoigneront à nouveau. Mimi Alei, l'ex-assistante de production qui accuse Weinstein d'agression sexuelle. L'actrice Jessica Mann qui avait en 2020 décrit son viol par le mania des s'y ajoutera une nouvelle victime présumée, pour l'instant anonyme, et un contexte très différent dans un pays où le retour de flamme d'un contre-MeToo a été particulièrement violent entre la suppression du droit à l'avortement ou la réélection de Donald Trump accusé par de nombreuses femmes d'agressions sexuelles et de viols. Quelle que soit l'issue de ce nouveau procès, l'ancien producteur restera en prison, condamné en Californie à 16 ans de réclusion.
Midi 39 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. S'était emporté Emmanuel Macron devant des jeunes et des mères de famille qui lui reprochaient de raconter ses salades. C'était il y a 4 mois. Le chef de l'État était alors venu constater les dégâts après que le cyclone Chido eut frappé le département le plus pauvre de France. Et hier, comme il l'avait promis, le président est donc revenu à Mayotte. L'occasion surtout de constater par lui-même que rien ou presque n'avait changé sur l'archipel, si ce n'est le retour un peu partout de baraques de tôles et de planches réapparues quasiment aussi vite qu'elles avaient été littéralement soufflées par la tempête. Bref, un état des lieux accablant. Le président est finalement reparti de l'île avec une nouvelle promesse, un plan de refondation doté de 3 milliards d'euros sur 6 ans et qui sera voté d'ici l'été.
Et aujourd'hui, deuxième étape de cette tournée dans les territoires de l'océan Indien, le chef de l'État est à La Réunion.
Une île affectée, elle aussi, par le passage d'un cyclone. Garance, c'était il y a un peu moins de 2 mois. Et puis surtout, le territoire est aujourd'hui secoué par une épidémie de chikungunya, cette maladie infectieuse transmise par le moustique tigre qui a déjà fait 6 morts et touché potentiellement 100 000 personnes, soit un habitant sur 9. Notre envoyé spécial, Elia Bergel, était ce matin aux côtés du président qui a tenu à défendre la stratégie de la France face à l'épidémie.
Oui, lors d'un premier bain de foule avec des réunionnais à Saint-Denis ce matin.
Bonjour madame, vous allez bien?
Impossible de ne pas parler de la maladie dans toutes les têtes ici, le chikungunya.
La France est l'un des premiers pays au monde à avoir acheté massivement le vaccin qui vient d'être stabilisé et qui donc peut maintenant être diffusé.
40 000 doses de vaccins sont arrivées au début du mois à La Réunion. Emmanuel Macron appelle à mettre en place toutes les mesures de protection, de prévention, surtout pour les femmes enceintes. Nous sommes à vos côtés, promet le chef de l'État.
Tout ce qui doit être fait de toute façon sera fait, comme on le fait à chaque fois. Et ici à La Réunion, si des renforts sont nécessaires, ils seront mis en place.
Le directeur de l'hôpital de La Réunion demande justement l'envoi de renforts médicaux face au risque de saturation du système de santé. Plus de 33 000 cas de chikungunya confirmés ici à La Réunion depuis le début de l'année. De nombreux syndicats responsables politiques dénoncent une épidémie très mal anticipée.
Et pour continuer d'évoquer cette visite à La Réunion, invité à présent de la rédaction Jocelyn Rode, professeur des universités en psychologie de la santé et des maladies infectieuses à l'école des hautes études en santé publique. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Dimanche dernier, le directeur du CHU sur place expliquait que le pic de l'épidémie de chikungunya était passé. Est-ce qu'il faut en déduire que le virus est désormais sous contrôle à La Réunion ?
Alors ce qui se passe actuellement, c'est qu'on va passer à la saison sèche, hein, puisque l'île de La Réunion se situe dans l'hémisphère sud, et donc on entre dans l'hiver austral, comme nous entrons en fait dans la période estivale progressivement, et donc comme la saison est plus sèche, il y a beaucoup moins de moustiques, il y a beaucoup moins de chances de prolifération de moustiques, donc moins de moustiques, ça veut dire qu'on a potentiellement moins de transmission dans la population, ce qui est exactement ce qui avait été observé en fait lors de la précédente épidémie qui a eu lieu en 2006.
Est-ce que l'on sait expliquer les causes du retour de cette épidémie dans des proportions aussi importantes ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les épidémies sont toujours des phénomènes multifactoriels complexes, hein, donc ils ont une dimension d'imprévisibilité. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on a un vecteur qui est installé dans ce territoire depuis le début des années 2000, hein, qui a été à l'origine donc de cette première crise épidémique en 2006. On a également un cyclone hein, qui est passé il y a quelques semaines maintenant et qui a pu désorganiser les services publics, en particulier la collecte des déchets, puisque le moustique est capable d'exploiter la moindre stagnante en fait pour constituer ce qu'on appelle des gîtes larvaires et donc se reproduire. Et puis on a enfin, et ça c'est important, une perte d'immunité progressive de la population, puisque la précédente épidémie datant de plus de 20 ans maintenant, on a un rajeunissement, c'est une population jeune, hein, La Réunion, on a un rajeunissement de la population et donc une perte d'immunité comme c'est le cas pour d'autres maladies infectieuses.
La lutte contre la prolifération des moustiques tigres repose généralement sur l'usage d'insecticides d'une part et puis la prévention individuelle contre les piqûres d'autre part. Est-ce que ces mesures sont suffisamment efficaces aujourd'hui ?
Alors, c'est clair que pendant longtemps, la lutte chimique hein, par l'utilisation d'insecticides a été un peu la panacée. Ça a été beaucoup utilisé à partir des années 50 et jusque dans les années 70. Mais ce qui s'est produit en fait dans les années 70, c'est qu'on a observé des résistances chez les moustiques. Et donc, les moustiques sont de moins en moins sensibles à ces insecticides. Et de ce fait, on utilise beaucoup moins aujourd'hui les insecticides, et pas seulement pour des raisons d'efficacité, aussi pour des raisons sanitaires. Hein. C'est un impact sur la biodiversité, sur l'environnement qui est non négligeable. Et puis, aussi un impact sur la santé humaine, qui est bien démontré aujourd'hui. Et donc, on est contraint d'utiliser d'autres méthodes. Et donc, parmi ces méthodes, il y a évidemment ce qu'on appelle la lutte mécanique. Donc, ça consiste à éviter des eaux stagnantes dans son environnement et à se protéger, donc à éviter ce qu'on appelle les contacts entre les humains et les moustiques par le port de vêtements longs ou de répulsifs ou de moustiquaires. Et ça a une certaine efficacité. Les études cliniques montrent que, par exemple, les moustiquaires aux fenêtres permettent de réduire considérablement, en fait, l'exposition aux moustiques sans toutefois complètement la faire disparaître.
Il se trouve qu'une arme supplémentaire est venue s'ajouter récemment donc à la lutte contre cette maladie, c'est le vaccin. Une grande campagne de vaccination est d'ailleurs actuellement en cours. Elle sera d'ailleurs bientôt étendue aux habitants de Mayotte. Est-ce que ce vaccin pourrait permettre de vaincre définitivement la maladie ?
Alors du coup, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des innovations technologiques qui nous permettent de lutter contre la maladie, ce qui n'était pas le cas en 2006. Le vaccin en est une. Mais sur ce sujet, il y a quand même une grande sensibilité, notamment de la population réunionnaise. C'est pas propre à la Réunion, on le retrouve dans beaucoup de territoires d'outre-mer et dans une certaine mesure aussi dans l'Hexagone. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un développement de l'hésitation vaccinale. Les gens ont relativement peur, certaines personnes ont relativement peur des vaccins. Et ça génère parfois des doutes ou des réticences à se faire vacciner contre une maladie comme le chikungunya ou contre, par exemple, la Covid-19 il y a quelques années maintenant.
Une dernière question. Une autre technique est venue également enrichir la lutte contre le chikungunya, même si on n'en est encore qu'à l'étape expérimentale. C'est la technique dite de l'insecte stérile. De quoi s'agit-il ?
Oui, alors ça, c'est un nouvel outil qui est développé, qui permet en fait de cibler spécifiquement le moustique tigre, le moustique Aedes, qui est le vecteur de cette maladie. Et en fait, il consiste à tout simplement stériliser les moustiques mâles, puisque seuls les moustiques femelles piquent par l'exposition à des rayons X. Et donc, de ce fait, les spermatozoïdes des moustiques mâles ne sont plus viables. Et donc, lors de la fécondation, les œufs des moustiques ne se développent plus. Et en ciblant et en développant cette technique dans certains territoires, sur le plan expérimental à La Réunion, on a pu montrer effectivement une baisse de l'exposition des habitants aux piqûres de moustiques de type Aedes. Donc il semblerait que cette technique ait une certaine efficacité. Elle est aujourd'hui, elle a été utilisée notamment autour de l'aéroport, dans la zone du parc sur l'île de La Réunion. Elle va être également à nouveau réutilisée de manière expérimentale à Saint-Joseph dans le sud de l'île dans les prochains mois.
C'est bien compris. Merci Jocelyn Rode, professeur, je le rappelle, des universités en psychologie de la santé des maladies infectieuses à l'école des hautes études en santé publique, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Une étude participative vient d'être lancée en France pour étudier les symptômes de la dépression chez les hommes et les femmes.
Avec la particularité qu'elle est dès à présent disponible en ligne. Alors à l'initiative de la PHP de l'Université Paris-Cité, cette étude participative vise à mieux comprendre la diversité des symptômes de la dépression et en particulier, Chloé Geffroy, l'écart de genre dans la dépression.
En France, on comptabilise deux fois plus de diagnostics de dépression chez les femmes. Margot Hazan, interne en psychiatrie et chercheuse pour cette toute nouvelle étude participative, explique que les données sur les femmes sont nombreuses parce qu'elles consultent plus de psychiatres et de psychologues. Pourtant, le taux de suicide est trois fois plus important chez les hommes. Un paradoxe qui a de quoi surprendre et qui interroge sur un possible sous-diagnostic de la dépression chez ces derniers. Est-ce qu'ils ont moins recours aux soins psychiatriques ? Ont-ils des symptômes mal identifiés, différents de ceux des femmes? Cet écart de genre dans la dépression est connu depuis les années 80 chez les anglo-saxons, précise Margot Hazan. Un certain nombre d'études sur les différences de symptômes entre les deux genres ont été publiées. Augmentation de l'appétit, besoin de dormir davantage chez les femmes, agressivité, irritabilité chez les hommes. Malgré tout, cela reste un angle mort de la recherche en France, ajoute la chercheuse. D'où la pertinence pour les hommes de participer à l'étude afin d'exister un peu plus dans les statistiques. Pour l'heure, il représente seulement 20% des participants.
Enfin, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, avec qui plus est deux théories jusqu'à présent incompatibles. Dès lors, comment réconcilier la relativité générale qui explique le fonctionnement de l'univers d'un côté et puis la physique quantique qui régit l'infiniment petit de l'autre? Peut-être l'Agence spatiale européenne y parviendra-t-elle? Hier, l'ESA a lancé une mission visant à arrimer deux horloges atomiques à la Station spatiale internationale. L'objectif, mesurer l'effet de la gravité sur l'écoulement du temps qui n'est pas le même selon que l'on soit positionné sur Terre ou dans l'espace. un décalage infinitésimal mais suffisant pour considérer donc que le temps n'est pas une notion universelle et absolue. On termine avec un mot du temps, comprenez de météo cette fois-ci, ciel variable cet après-midi sur l'ensemble des régions. Quelques averses pourront même se produire près des Pyrénées ainsi que dans le nord-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 13 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Pommet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.